Vous écoutez, on lit pour vous.
Un futur centre d'hébergement pour les personnes atteintes de cancer verra le jour à Rouyn-Noranda. Un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 8 novembre 2024 dans Le Citoyen. Un projet de grande envergure destiné à améliorer le quotidien des personnes atteintes de cancer dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue a été annoncé le 6 novembre par la Fondation Santé Rouyn-Noranda, FSRN, la Fondation québécoise du cancer, FQC, et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, CI3SAT. Dès l'été 2025, un centre d'hébergement et de soutien sera inauguré au Centre régional de radio-oncologie de Rouyn-Noranda pour venir en aide aux patients en traitement et à leurs proches. Ce futur centre d'hébergement, qui comprendra 10 chambres et 20 lits, offrira un lieu confortable et sécuritaire à proximité des traitements, allégeant ainsi le fardeau logistique pour les patients et leurs familles. Par ailleurs, il proposera un hébergement abordable tout en donnant accès à des services complémentaires tels que la massothérapie, la kinésiologie et le soutien psychologique. Notre objectif, c'est d'être plus près du monde, en soutenant le plus de Québécois possible et en bonifiant l'offre de services là où le besoin se fait ressentir. C'est de se rapprocher des communautés qui sont mal desservies. Et c'est aussi de collaborer étroitement avec les intervenants du milieu de la santé, souligne Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer par voie de communiqué. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Santé Rouyn-Noranda, la Fondation québécoise du cancer et le CI3SAT. Il vise à améliorer l'accessibilité aux soins en créant un environnement de soutien adapté aux besoins des patients en oncologie. Cette initiative va au-delà de l'hébergement. Elle constitue un véritable centre de réconfort et d'accompagnement pour les personnes touchées par le cancer. Grâce à ce partenariat, nous pourrons offrir un environnement plus serein et sécuritaire pour nos patients et leurs familles, dit Caroline Roy, présidente directrice générale du CI3SAT. Actuellement, 7 millions de dollars ont été récoltés par la Fondation Santé Rouyn-Noranda et les travaux sont en cours. Stéphanie Thuot, directrice générale de la Fondation, souligne l'importance de cette initiative. C'est un projet transformateur pour les soins de santé dans notre région et il représente un énorme pas en avant pour les patients de l'Abitibi-Témiscamingue. La Fondation québécoise du cancer, avec son expertise en matière de soutien aux patients en oncologie, coordonnera le service d'hébergement et les activités de soutien. Pour l'instant, les travaux se poursuivent et le projet devrait être opérationnel dès l'été 2025. Grâce à cette nouvelle ressource, les patients auront non seulement accès à des soins de qualité, mais aussi à un environnement de soutien qui favorisera leur guérison physique et mentale. Pour soutenir ce projet, les citoyens sont invités à participer à la campagne de financement en visitant la page web soignezchezzous.ca. C'était un futur centre d'hébergement pour les personnes atteintes de cancer verra le jour à Rouyn-Noranda, un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 8 novembre 2024 dans Le Citoyen.
Le sourire de Marc-Arthur Joseph. Un texte de Caroline Montpetit paru le 14 décembre 2024 dans Le Devoir. Tout le monde a une histoire, dit-on. S'inspirant du concept danois de la bibliothèque humaine, Le Devoir poursuit une série de portraits de livres vivants qu'on emprunte le temps qu'ils nous racontent leur vie. Aujourd'hui, Marc-Arthur Joseph. Il aurait beau tonner et grêler sur Montréal, Marc-Arthur Joseph nous accueillerait toujours avec le même sourire, un sourire éclatant qui donne envie de s'y engouffrer le temps d'une conversation, comme pour en ressortir plus fort. Lorsqu'on entre chez lui, dans une petite rue résidentielle de Roxborough, on est accueilli aussi par sa femme, La Merci. Ce sont ses toiles, souvent inspirées de son Haïti natal, qui ornent le salon. Sur une table à café, ils nous servent des pâtisseries et des bananes plantains. Il éclate de rire. Est-ce que sa bonne humeur est liée à ses origines haïtiennes? Il acquiesce. C'est quelque chose qu'on apprend là-bas. Ça n'a jamais été facile en Haïti à travers l'histoire. Donc, les gens apprennent à composer avec la situation. Ils sont presque fatalistes. Savoir lire et écrire. L'histoire de Marc-Arthur Joseph commence dans la petite ville de Wanamainte, dans le nord-est d'Haïti, à la frontière de la République dominicaine. Ses parents étaient cultivateurs. Des gangs petits qui se rendaient chaque semaine au marché avec du maïs, des haricots, des bananes pour les vendre et acheter le nécessaire à la famille. Son père savait tout juste lire et écrire et servait d'écrivain public aux gens de son village qui devaient écrire des messages ou répondre à des lettres. Sa mère, dont il vient de célébrer le 100e anniversaire, a appris à lire et à écrire à son arrivée au Québec à 53 ans dans une classe d'alphabétisation. Paradoxalement, en Haïti, où 40% de la population est analphabète, l'éducation est très valorisée. Malgré leur train de vie modeste, les Joseph ont envoyé tous leurs enfants à l'école dans la ville voisine où une tante les logeait. Nos parents, ils veulent toujours qu'on réussisse mieux qu'eux, donc ils font des efforts parce que pour eux, c'est avec l'éducation qu'on réussit, dit-il. Marc-Arthur Joseph a tant aimé l'école qu'il est devenu professeur. En Haïti, c'est une profession qui me donnait un avenir assuré. Au secondaire, puis à l'école des instituteurs, il rencontre les frères québécois du Sacré-Cœur, qui dirigeaient alors plusieurs écoles au pays. Avec des collègues, il organise une école du soir pour les enfants qui travaillent comme domestiques durant la journée. On leur apprenait à lire et à écrire en créole avant de les amener vers le français. À l'époque, ça ne se faisait pas encore. Aujourd'hui, on enseigne le créole à l'école en Haïti, raconte-t-il. Par correspondance. Mais son premier contact avec le Québec lui est venu adolescent, alors qu'il correspond avec un jeune homme de Papineauville. Curieux du monde, le Québécois va le visiter en Haïti où Marc-Arthur l'accueille, lui fait vivre des expériences inusitées comme une fête champêtre ou le fait de voyager sur le toit d'un autobus bondé. « Je lui ai fait faire des choses qu'il n'avait jamais vécues de sa vie », dit-il en riant. Plus tard, Marc-Arthur fera aussi visiter son pays aux beaux-parents de ce correspondant qui l'accueilleront à leur tour à Montréal. Dans ce temps-là, il y avait encore du tourisme en Haïti. C'est comme étudiant à l'Université de Montréal que Marc-Arthur Joseph est venu s'installer au Québec avec La Merci, qui était aussi enseignante et qui est devenue entre-temps la femme de sa vie. Mais il y est venu pour la première fois en tournée, lorsqu'il jouait les impresarios pour un groupe de musique qui s'appelait Les Gitans. On faisait de la musique haïtienne, et puis on a fait de la musique d'église sur un mode populaire. C'est ce qu'on appelait ici l'époque des messes à gogo. Derrière lui, Marc-Arthur Joseph a laissé son pays, mais aussi son métier. À son arrivée, c'était l'avènement des polyvalentes au Québec, après le rapport Parent. Le Québec avait un trop-plein d'enseignants en disponibilité et lui a toujours refusé son brevet, explique-t-il. Un regret perce dans sa voix. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont retraités, le même Québec est prêt à embaucher des professeurs avec un bac en plastique, blague-t-il, citant une amie au sujet de la criante pénurie de professionnels dans ce domaine. Sa femme et lui se sont tournés vers l'administration. Marc-Arthur Joseph s'est impliqué dans différents organismes, a été commissaire d'école et toujours engagé dans l'accueil de nouveaux arrivants. On a un centre d'intégration. C'est le centre multiservice de l'ouest de l'île. On y offre des services aux nouveaux arrivants et beaucoup de francisation. Haïti, la perle des Antilles, s'enfonce quant à elle dans une crise qui ne semble jamais vouloir se résorber. Marc-Arthur Joseph y est retourné après le tremblement de terre pour donner un coup de main dans le secteur de l'éducation. En 2012, j'ai décidé de retourner en Haïti comme travailleur humanitaire. J'ai fait 2 missions avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C'était mes derniers séjours. Aujourd'hui, il n'y a plus de Québécois en Haïti, dit-il. Peu avant son décès, alors qu'il avait été rapatrié ici, le frère Claude Chénier, qui avait créé là-bas la Fondation L'Amicale Sacré-Cœur en éducation, lui en a confié les rênes, qu'il a tenues pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est au Québec qu'il s'investit dans une foule de comités. Le téléphone sonne, la merci répond. C'est quelqu'un qui sollicite l'aide de Marc-Arthur pour un engagement quelconque. La nostalgie d'Haïti, elle apparaît dans ce tableau de la merci de la rivière de son enfance. Parfois, je regarde des vidéos de gens qui vont se baigner là. Mais ils ne voient plus d'espoir pour Haïti. « J'ai perdu confiance », dit Marc-Arthur Joseph. « On a perdu confiance. Chaque fois qu'il se passe des choses terribles, je me dis, bon, on a atteint le fond du baril. Mais non, ça va toujours plus bas. » C'était « Le sourire de Marc-Arthur Joseph », un texte de Caroline Montpetit paru le 14 décembre 2024 dans Le Devoir.
Canfor Legacy Montréal, un leg local pour la lutte au VIH. Un texte de Stephen Ross, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Le Canfor Legacy Project est un réseau social de supporters et de membres de la communauté locale montréalaise qui aide à amasser des fonds afin de soutenir les initiatives nationales de sensibilisation et de prévention du VIH. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le coprésident du chapitre Montréal, Jacques Lapierre, revient sur les activités du jeune organisme et offre sa perspective sur l'état de la lutte au virus. Tour d'horizon. C'est tout un défi que de fonder le chapitre local d'un organisme tel que le projet Legacy de Canfor. Donc, il fallait des personnes motivées pour les bonnes raisons et qui connaissait bien les questions relatives à la lutte au VIH, lance Jacques Lapierre d'entrée de jeu. De mon côté, j'étais déjà impliqué auprès de Canfor à Toronto depuis 2017, donc une fois réinstallé à Montréal en 2022, c'est un peu naturellement qu'on m'a proposé de m'impliquer pour mettre sur pied un chapitre ici, poursuit-il avec humilité. Force est de constater que le pari a été relevé puisque l'organisme compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres impliqués activement. Comme ses alter-égos de Toronto et d'Ottawa, le chapitre montréalais de Canfor Legacy Project a pour mission de transposer au niveau local la lutte nationale de Canfor, qui vise à éduquer les populations à risque à propos des enjeux entourant le VIH et éradiquer l'épidémie du virus au cours des prochaines années. Afin de parvenir à ces fins, l'organisme coprésidé par Jacques Lapierre et Joshua Fagan adopte une approche axée sur certaines priorités précises. D'abord, il faut continuer à augmenter le niveau de connaissance et de compréhension des enjeux liés au VIH et continuer à tendre la main aux populations à risque sur le plan national. Jacques Lapierre rappelle d'ailleurs que le visage du VIH a drastiquement changé au cours des dernières années. Il faut être conscient que freiner l'épidémie du VIH n'est pas une lutte encapsulée dans les années 80 ou limitée aux communautés 2SLGBTQIA+. Le virus touche également en grande partie d'autres groupes très diversifiés, dont les personnes hétérosexuelles, les communautés rurales, ou encore parmi les nouveaux arrivants de culture africaine ou caribéenne, par exemple. En effet, selon l'Agence de la santé publique du Canada, en 2022, 25 % des personnes vivant avec le VIH étaient de sexe féminin, et 13 % étaient des personnes ayant déjà utilisé des drogues par injection. Le jeune professionnel rappelle en outre que bien que le VIH fût à ses débuts une épidémie centrée sur les grands centres urbains, la réalité de 2024 est tout autre. Il cite à titre d'exemple la Saskatchewan et le Manitoba qui sont parmi les régions les plus touchées par les récentes hausses du virus. Pour lui, ce portrait signe que l'éducation est l'une des solutions principales au combat. On revient toujours à la question d'éducation et d'accessibilité des ressources. Les villes comme Montréal et Toronto ont développé un réseau un peu plus solide de ressources pour le traitement et l'information, mais dans les régions éloignées, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pour cette raison qu'en plus de continuer à investir dans la recherche pour découvrir un remède, l'autre axe prioritaire pour Canfor Legacy Project Montréal est de faciliter l'accès au dépistage pour tous, notamment par la sensibilisation aux ressources disponibles. L'éducation et l'accès facile aux tests de dépistage, au niveau local, sont donc l'une des pierres angulaires pour mettre fin à l'épidémie, selon Jacques Lapierre. Celui-ci rappelle d'ailleurs que 10 % des personnes infectées ne connaissent pas leur statut sérologique et que l'une des plus importantes barrières au dépistage demeure le stigma entourant le VIH. Le mot-clé ici est le stigma. Que l'on soit séropositif ou séronégatif, ce stigma-là demeure. Les gens ont honte et ont peur de parler du VIH et de se faire tester. Nous travaillons donc très fort sur le plan local pour réduire cette barrière. Plus concrètement, la lutte de Legacy Project prend la forme d'une série d'événements locaux de haute qualité rassemblant des supporters et influenceurs qui ont à cœur de faire avancer la cause. À raison de 3 à 4 fois par année, les membres de l'organisme ont ainsi l'occasion de participer à différentes soirées et événements bénéfices dont les profits sont redistribués aux communautés locales. Les fonds récoltés lors des multiples événements organisés par Legacy Project sont notamment remis à des organismes communautaires actifs dans l'éducation, la prévention et la lutte à la propagation du VIH comme ACCM, Réseau ou Sexe Fluide, un portail d'informations en ligne visant à aider les jeunes à découvrir comment avoir des relations sexuelles agréables et sécuritaires, ou leur donner l'occasion d'échanger à ce sujet. Pour Jacques Lapierre, cet exemple illustre parfaitement la vision de Legacy Project. L'un de nos objectifs principaux est la sensibilisation et la réduction des stigmas. Les jeunes de 15 à 25 ans comptent pour une grande partie des nouveaux cas de VIH et Sexe Fluide sert justement à rejoindre et éduquer cette tranche d'âge. Il n'est toutefois pas question pour Legacy Project d'adopter une approche moralisatrice ou d'organiser des événements tristes ou mornes, s'empresse de préciser Jacques Lapierre. Tout au contraire, la vision de Legacy Project est de faire les choses différemment en misant sur des événements haut de gamme, le fun et rassembleur, tout en faisant progresser la lutte au VIH. Il faut absolument être conscient de notre historique, mais on veut avant tout regarder vers l'avant pour rendre la lutte au VIH moins tabou, explique le coprésident. Tantôt dans un hôtel, tantôt dans un bar ou un centre culturel, la formule proposée s'efforce ainsi d'aborder la lutte au VIH de manière créative. Au menu, des invités spéciaux, des experts du domaine de la santé, des témoignages de membres de la communauté et des numéros de drague, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Les membres de Legacy Project Montréal ont notamment eu droit au cours de la dernière année à un souper love-in de style banquet avec bar ouvert à l'hôtel William Gray, à une soirée exclusive au Centre Phi ou encore à un grand événement spécial à l'hôtel Lorraine-Élisabeth à l'occasion de la fierté. Parmi les invités de marque en vedette lors des derniers rassemblements caritatifs, on compte notamment Miss Butterfly, le conseiller municipal Serge Sasseville, l'animateur et producteur Dane Stewart ou encore le docteur Bertrand Leboucher, sommité dans la recherche en lien avec le VIH. Aux personnes qui voudraient s'impliquer dans la lutte, Jacques Lapierre les enjoint à devenir membres du Legacy Project Montréal. Moyennant un don annuel, il est possible de se procurer un membership qui donne accès à la série complète d'événements ou d'acheter des billets uniques pour certaines soirées spécifiques. Dans tous les cas, un reçu est émis pour fin d'impôt et les participants ont droit d'inviter une personne accompagnatrice gratuitement. Info, page web, canfar.com, canfar.com. C'était Canfar Legacy Montréal, un leg local pour la lutte au VIH. Un texte de Stephen Ross, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
La fourrure de grand-mère Rita. Un texte de Sarah Champagne, paru le 9 décembre 2024 dans la presse. Enfant, avez-vous déjà plongé, tête première, dans une montagne de manteaux de fourrure empilés sur un lit? Cette question, qui nous renvoie tout droit dans les années 1970-1980, a surgi pendant que la presse visitait l'atelier de création Gamma, situé rue Saint-Georges à la Prairie. Derrière une porte blindée où l'on maintient la température à 12 degrés Celsius avec humidité contrôlée, des centaines de gros manteaux sont alignés sous un plafond d'une hauteur industrielle. Il y a du blanc nacré, du doré, du chocolat à poils longs, du noir à poils courts. La designer et gestionnaire de mode Gabrielle Maillot-Côté a pour mission de redonner ses lettres de noblesse à la fourrure à travers du remodelage. Elle se consacre à l'économie circulaire dans un univers de luxe. C'est souvent pour redonner vie à des souvenirs, aux textures et aux effluves des vieux parfums que mes clients viennent me voir. Je remodèle, confectionne sur mesure ou j'entrepose et j'entretiens leur vieille fourrure. Le tout, souvent avec la nostalgie de ces soirées qui se sont étirées chez une tante ou chez la grand-mère, avec les rires en sourdine dans la cuisine, raconte celle qui a foncé en 2021 en relançant les spécialités André Morin cuir et fourrure dont les moins jeunes se souviendront. Dans la salle d'exposition de Gamma, les créations donnent tour à tour envie de s'en mitoufler. L'avant et après, d'un long manteau lourd, devenu blouson de vison perle recyclée, manche spirale et époustouflant. Il y a également l'avant et après méconnaissable d'un vieux renard roux, devenu manteau réversible sophistiqué. La designer est consciente du fait que cette matière naturelle a perdu du lustre au profit de la fourrure dite « végane ». Mais, souligne-t-elle, il faut se rappeler qu'il s'agit ici de fourrures recyclées, d'une durabilité allant facilement jusqu'à 70 ans si elles sont bien entretenues. Elle estime qu'il y a un intérêt renaissant. Gabrielle Maillot-Côté souligne « Les gens pensent à tort que la fourrure végane est éthique, mais ils oublient qu'elle est fabriquée à base de pétrole, viscose, rayon, acrylique ou polyester. » Que ce n'est pas biodégradable, difficilement recyclable. Alors que tous nos manteaux de fourrure ont une histoire, il y a un attachement, et c'est écologique. C'est du slow fashion, de la mode lente. Au Canada, le commerce de la fourrure a commencé vers la fin du 17e siècle, quand des Européens ont commencé à acheter aux Autochtones des peaux de castor. L'industrie a longtemps été dirigée par la compagnie de la baie du Tson. D'ailleurs, dans le quartier historique national du commerce de la fourrure à la Chine, à Montréal, un vieux hangar a été transformé en centre d'interprétation. De nos jours, il est nécessaire d'avoir un permis pour faire le commerce de la fourrure d'un animal piégé ou chassé. Et plusieurs espèces sont protégées par des lois strictes pour l'exportation, comme le loup, la loutre de rivière, le lynx et l'ours. C'est différent pour le remodelage de la fourrure existante. Directeur des communications pour l'Institut de la fourrure du Canada, un organisme porte-parole national du secteur, Simon Ward explique qu'il n'existe aucun répertoire d'artisans en remodelage de fourrure. Quelques entreprises sont assez connues au Québec, dont les fourrures Robert et Mont. Pour les tuques et les mitaines, il y a Arikana. Et durant la pandémie de COVID-19, une jeune pousse de la région de Victoriaville, Arthabaska, s'est fait connaître en offrant des mitaines au premier ministre François Legault. Marie-Claude Girard et Martin Brûlé sont devenus des passionnés des mitaines, cache-oreilles et mocassins en fourrure remodelée. La presque totalité de leur confection Arthabaska porte le nom des grands-mères ou grands-tantes à qui appartenaient les manteaux. Au bout du fil, le couple Verbeau-Botteur raconte avoir reçu, il y a 2 ans, un manteau en chat sauvage à transformer d'une nièce de garde Eva Morin, une infirmière et sage-femme de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec sa fourrure, cette dernière a parcouru les colonies à bord d'une autoneige B-12 de Bombardier dans les années 1940 pour mettre au monde des centaines de bébés. Il y a aussi les mitaines et les mocassins de Laurette, de Rita et d'Annette. Chaque confection est unique, vendue avec son certificat. Elle nécessite entre 8 et 25 heures de travail, disent-ils. Le cuir pour les garnitures est neuf, précisent-ils, mais il provient de retailles récupérées auprès de fournisseurs de cuir et de rembourrage. Ils se souviennent des retailles neuves d'un rouge vif qui provenaient des banquettes des restaurants Nichols, associés autrefois à Céline Dion. « On a démarré durant la pandémie », raconte Martin Brûlé. « Nous sommes des autodidactes. » « Je me rappelle les premières mitaines. » Marie-Claude a pété 3 aiguilles avec sa petite machine à coudre Singer. Aujourd'hui, on a des machines à coudre la fourrure, on a 3 machines à broder dans notre sous-sol. Nous travaillons le jour, on remodèle la fourrure le soir venu. On adore ce qu'on fait, on en mange. C'était « La fourrure de grand-mère Rita », un texte de Sarah Champagne paru le